dans les groupes de connexion sur les relations en ce moment. Donc la majorité, c'est bien. Alors, en faisant des recherches sur les relations, hein, pour préparer les cours, je suis tombée sur une série que j'ai trouvée vraiment excellente. Et je me dis que quand on est bientôt à la fin de cette étude, ça va venir un petit peu clôturer en avance ce dont on a parlé ces dernières semaines, les relations. Les relations, et peut-on encore être authentique aujourd'hui dans un monde de selfies? Est-ce qu'on peut encore être authentique dans nos relations alors que le premier réflexe qu'on a, c'est comme ça, dans tous les sens, à longueur de journée, tout le temps, les selfies? Vous croyez qu'on peut encore être authentique?
Tu vas nous le dire.
Je vais vous le dire exactement. Alors, qui ne sait pas ce qu'est un selfie déjà? Tout le monde sait ce qu'est un selfie? Tu sais pas ce que c'est?
Pour l'enregistrement.
Alors, le selfie, c'est une photo qu'on prend souvent avec son téléphone. Et pour les connaître, voilà. Mais je dis quand même, si jamais il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est, donc les selfies, voilà. C'est un instantané. Prise le plus souvent avec un téléphone, un instantané de soi-même, pas du voisin, parce que la vie du voisin, on s'en fiche. C'est un instantané de soi, un autoportrait pris à un instant T, vraiment le truc qu'on veut immortaliser. Alors, c'est n'importe quoi, hein. Mais voilà, c'est la mode des selfies. Donc, comment vous expliquer à quel point les selfies sont devenus importants dans nos vies? J'ai trouvé un chiffre qui est tout à fait parlant. C'est-à-dire que sachez qu'en un mois, mes amis, le mot « selfie » est saisi sur les réseaux sociaux, donc tous les réseaux sociaux confondus, 35 millions de fois. 35 millions de fois en un mois, on peut lire le mot « selfie » quelque part sur les réseaux sociaux. C'est énorme, hein? Donc, ça veut dire si le « selfie » a pris beaucoup d'importance dans nos vies aujourd'hui. Et pourtant, ça peut être difficile à comprendre, notamment pour des gens de ma génération. Et pourtant, je ne suis pas vieille, hein?
Non.
Mais c'est vrai que le selfie, ça peut quand même être difficile à comprendre. On se dit, nous, par exemple, moi, les gens de ma génération, mais ils ne seraient jamais venus à l'idée de tourner un appareil photo vers soi, de se le coller sur le nez et de prendre des photos à longueur de journée. Jamais ça ne serait venu à l'idée. Ça. C'est vraiment quelque chose de récent. On n'a jamais eu cet automatisme-là. Nous, enfin, ma génération, on avait horreur des photos. On avait juste horreur des photos. Moi, je me souviens quand j'étais petite, alors je faisais une petite sélection. Quand j'étais petite, on avait horreur de ça et ma mère adorait les photos. Mais c'était les photos de l'époque, donc c'était des photos posées. C'était des photos. C'était des photos posées. Alors à 5 ans, mais c'est sûr, c'est mignon. À 5 ans, on trouve ça drôle, quoi. Quoique quand je revois la coiffure, je trouve pas ça drôle du tout. Et ma mère avait cette manie, hein. Ma mère vous coiffait comme ça, les coiffures étaient étudiées, les coiffures au bol. Et donc toute la famille, hein, mon frère, ma soeur, tout le monde avait tous dans la même coupe. Donc à 5 ans, c'est mignon. Mais un petit peu plus tard, ça devient pesant. Quand on se retrouve sur le canapé du salon pour les photos obligatoires, tous les ans, ça devient pesant. On n'en peut plus, puis ça durait des heures, parce que ma mère, elle voulait être sûre de ne pas la louper. Parce que ça, c'était la photo qu'elle trônait dans la salle à manger toute l'année, donc il fallait qu'elle soit réussie. Donc elle nous prenait, puis c'était presque comme les peintres, vous savez, elle nous remettait un peu comme ça, tout un peu comme ça, et ça durait 3 heures. Et on avait horreur de ça. Les photos, c'était notre cauchemar à notre génération. Et alors, pire que tout, mais là, je ne vous en ai pas mis parce que c'était quand même trop terrible. C'était les photos d'école. Alors, les photos d'école. Non, mais les photos d'école, c'était un cauchemar. Les photos d'école, non seulement vous alliez vous taper cette photo-là toute l'année, mais en plus, c'était pas une œuvre d'art unique. C'était vendu dans des pochettes. Vous vous rappelez? Donc, il y en avait 20 dans les pochettes. Donc, non seulement vous vous trouviez avec cette photo-là qui allait trôner dans votre maison toute l'année, mais en plus, en arrivant chez papy, mamie, tonton, tata, toute l'année, vous voyez la même tête qui vous revenait comme ça, cette fameuse photo d'école. Donc, si elle était réussie, tant mieux, mais si elle était ratée, tant pis. Et donc, vous aviez. Vous aviez jusqu'à l'année d'après pour espérer pouvoir améliorer cette photo d'école. Donc, le photographe revenait. Ils vous faisaient tous défiler un par un pour prendre la photo. Ils comptaient jusqu'à 3. C'était rapide, hein. C'était one shot. 1, 1, 2, 3, clic. Si elle était ratée, tant pis, quoi. Rebelote, encore une année à supporter cette photo. Les photos d'école, c'était un cauchemar que pour moi ou j'en connais d'autres. C'était un cauchemar pour tout le monde, les photos d'école. Voilà. Non, donc ça, c'est ma génération. Ça, c'est notre rapport à la photo. Donc nous, le selfie, jamais ça n'aurait pu... L'histoire du selfie ne peut pas sortir de l'esprit de quelqu'un de ma génération. C'est pas possible. Pour nous, c'était trop douloureux, les photos. Quoi. C'était juste pas possible. Par contre, les jeunes, ils sont super à l'aise avec ça. Je veux dire, le jour de la photo de classe, les jeunes, mais alors, même pas peur, elles se pointent là, et puis elles posent. Elles se préparent sans aucun problème. Et le pire, c'est qu'elles ont raison de faire ça, parce que la plupart du temps, leurs photos sont réussies, quoi. Donc les jeunes ont un autre rapport à la photo. Mais c'était vraiment horrible, moi, ces photos de classe. Et puis alors, en plus, quand on est adolescent, c'est encore pire que d'habitude, parce qu'on a juste la coiffure qu'on a envie d'oublier, ou juste le bouton sur la joue, qu'on va se taper chez papy, chez mamie, chez tonton, chez tata, toute l'année, parce que le bouton, il était là juste pour le jour de la photo. C'était un cauchemar. Heureusement, les choses ont un peu changé. Hein. On s'est un peu amélioré avec le temps, gloire à Dieu. Donc, non seulement, aujourd'hui, donc, notre rapport à la photo a changé, maintenant, on se fait des photos, on se met carrément l'appareil sur le nez. Hein. C'est pas qu'on pose, qu'on fait des trucs un peu sympas, non, c'est qu'on se met l'appareil sur le nez et clac, on prend une photo. Mais en plus de ça, on met toutes les chances de notre côté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas juste la simple photo. On peut mettre des filtres. Vous savez ce que c'est les filtres sur les photos ?
Oui.
Voilà, on utilise tout ça. Donc en mettant un filtre sur la photo, bah, on peut rajouter de la lumière, en retirer. On peut faire en sorte que la photo ait l'air ancienne ou qu'elle ait l'air plus lumineuse, ou on peut donner l'illusion que c'est une peinture, un portrait qui a été peint ou un portrait qui a été dessin. Bref, avec le filtre, on peut tout faire. On peut se rajouter, alors voilà, il y a des applis aussi où on peut se rajouter des petites truffes d'animaux, des oreilles. On peut faire un tas de choses. Donc non seulement on aime se prendre en photo aujourd'hui, mais en plus de ça, avec les filtres, ben, on peut encore donner une autre image de soi. Et en général, l'image de soi que l'on donne quand on met des filtres, ben, ce n'est pas pour faire pire, c'est pour faire mal. Comme il va bien, ce jour-là, on ne prend pas de selfie, on ne les met pas sur Facebook, bizarrement. Hein. Vous avez remarqué que les photos sont toujours jolies et qu'on met toujours des choses à notre avantage. Des photos qui flattent notre ego. C'est ce qu'on fait. Et quand on applique des filtres, eh ben, on rajoute encore une couche supplémentaire à l'image superficielle qu'on cherche à donner de nous. C'est-à-dire que ce selfie qui est déjà un instant choisi, qui est déjà un instrument de communication redoutable, hein, parce qu'il ne faut pas... se leurrer, revenons un peu en arrière, le selfie, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle mode, mais c'est surtout un super instrument marketing. Je veux dire, qui a inventé le premier selfie ? Bah, les marketeurs. Hein. Qu'est-ce que c'est un selfie ? C'est une image à un instant donné, une image de soi qui est flatteuse, avec en général le commentaire. Ah bah oui, parce que j'ai oublié. Bien sûr, on prend des selfies comme ça, donc aucun doute, c'est nous. Mais en plus, on met un commentaire dessous, juste histoire qu'on ne confonde pas avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand je vais publier la photo sur Facebook, Snapchat, Instagram, juste histoire que la personne qui va lire cette photo sache bien que c'est moi qu'il faut qu'elle regarde. Hein. Pas le paysage derrière, ni les livres qu'il y a sur la table, c'est moi. Hein. Il s'agit de moi. Donc, on met le petit commentaire qui va bien. Et ben, tout ça, ce sont des instruments marketing. Ce sont des instruments marketing. Les publicistes utilisent ce genre de méthode. Jolie photo, joli slogan, quelque chose de court, de percutant, et hop, c'est fait pour vendre quelque chose. Donc mes amis, quand on met des photos sur Instagram ou sur Facebook, quand on fait des selfies à longueur de temps, qu'est-ce qui se passe ? A-t-on quelque chose à vendre ? Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on vend ? On se vend nous-mêmes sur Instagram, sur Facebook, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est un instrument marketing. La prochaine fois que vous mettez un selfie sur les réseaux sociaux, rappelez-vous, qu'est-ce que je vends ? C'est pas anodin, hein ? Alors voilà, il y a toutes ces histoires de filtres.
toutes ces histoires de je donne en pâture au monde, je partage, des photos qui sont flatteuses pour moi, évidemment. Alors, comment la technologie, donc cette technologie-là, impacte-t-elle nos relations ? Alors, faut remettre les choses à leur place. Moi, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis relativement active sur les réseaux sociaux. Alors, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. C'est une source d'information sympa. C'est un moyen de garder contact avec des gens qui sont loin. C'est un bon moyen d'évangéliser, hein, puisque tous les grands ministères sont sur Facebook. On peut voir leur culte en direct. Ils échangent des informations, ils annoncent des conférences, ils annoncent des bouquins, des trucs comme ça. Je trouve que c'est sympa. Avec une amie qui vit aux États-Unis, on échange des messages. Elle m'envoie des bons conseils. Puis c'est un bon moyen d'évangéliser malgré tout. Donc les réseaux sociaux ne sont pas qu'une mauvaise chose. Je trouve seulement qu'il faut juste prendre du recul par rapport à ça et que ça a tendance à prendre de plus en plus de place dans nos vies. Et ça, surtout, de plus en plus, ça prend de plus en plus de notre intimité. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut chercher à maîtriser. Mais je trouve que ça peut être une bonne chose. Mais comment cela impacte-t-il nos relations, la qualité de nos relations aujourd'hui ? Est-ce que ça change quelque chose, ces réseaux sociaux ? Eh bien, sachez que oui. Parce que nous, on trouve ça marrant. Moi, ma génération, je trouve ça marrant. Je veux dire, voilà, on fait des selfies de temps en temps. Mais je ne fais jamais de selfies toute seule. Mais on fait des selfies, voilà, en famille. Donc, c'est rigolo. On fait des trucs comme ça. Mais sachez que la nouvelle génération ne connaît que ce mode de communication. Moi, mes enfants, ils ont un téléphone. Tout le monde sait qu'ils ont un téléphone, hein. Tout le monde les a vus, voilà. Ils ont un téléphone, mais le truc, c'est que quand on leur a acheté le téléphone, on leur a dit, bon, rentre en sixième, le téléphone qui va bien, normal. Quand tu sors des cours un peu plus tôt, tu m'appelles, juste histoire de... Voilà, ça nous rassure, nous, les parents, hein, parce que franchement, ils n'ont pas besoin d'un téléphone. Moi, je suis allée en sixième sans téléphone, je ne suis pas morte. Hein. Mais bon, vivons avec notre temps. Téléphone qui va bien en sixième. Non, mais ils ne téléphonent jamais avec le téléphone. Vous avez déjà essayé d'appeler un ado au téléphone ? Ils répondent pas. Le seul moyen d'avoir un peu de communication avec eux, c'est de leur envoyer un texto. Alors là, le texto, ils répondent. Mais un coup de téléphone, ils répondent pas. Donc bon, on les oblige, on leur dit, attention, si tu téléphones pas, on t'enlève le téléphone. Parce qu'un téléphone, quand même, je veux pouvoir te joindre. C'est quand même moi qui paye les factures. Normal. Donc de temps en temps, on les oblige et de temps en temps, ils répondent. Mais vous savez, vous avez déjà essayé de parler au téléphone avec un ado. Alors, peut-être c'est que mes fils, je sais pas. Mais ils ne savent pas comment mettre le téléphone. Voilà. On n'entend rien. On n'entend rien quand on leur parle. On n'entend rien. Je ne sais pas, ils tiennent à l'envers ou ils tiennent... Ils ne savent pas. Ben non, parce que pour eux, ce n'est pas un téléphone. C'est un moyen de communication autre. On prend des snaps, on envoie des textos, on regarde des vidéos. Ben oui, les vidéos. On regarde des vidéos, mais on ne téléphone pas avec un téléphone portable. C'est secondaire chez eux. Alors que pour nous, c'est la première chose, la première raison pour laquelle on s'achète un téléphone. Pour parler, pour téléphoner. Eux, ils ne savent pas. Sauf que, ils passent tout leur temps libre sur cet engin-là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils parlent de moins en moins en tête-à-tête avec les gens. Ils ne parlent pas au téléphone, hein, visiblement. Moi, avec mes copines, on s'appelait pendant des heures ou alors on sortait pour se voir. Mais il se passait des choses, il y avait une interaction. Maintenant, non. Moi, mes fils, ils peuvent passer, si on les laisse faire, ils peuvent passer des journées entières enfermés dans leur chambre. Et ça leur va bien. On croit qu'ils sont seuls ou qu'ils sont comme des débiles sur leurs jeux vidéo, mais pas du tout. Ils communiquent. Ils sont toute la journée en train de communiquer avec leurs potes. Alors c'est texto, c'est... Voilà, mais en fait, non, ils ne sont pas isolés. Ils communiquent. Ils communiquent autrement que nous, mais ils communiquent. Alors c'est des textos principalement. Mais alors pire que tout, parfois il n'y a même pas besoin de textos, c'est-à-dire que c'est une photo qui va bien, la légende qui va bien, et hop, toute l'histoire est résumée. Ils n'échangent même plus de phrases. Mais qu'est-ce que ça va devenir, cette génération-là ? Ils filtrent tout ce qu'ils veulent bien faire paraître d'eux et filtrer. Et en plus de ça, ils perdent l'habitude de communiquer face à face. Vous voyez le danger pour cette génération-là ? C'est énorme. Énorme. Où est l'authenticité ? Où est l'authenticité chez les jeunes ? Déjà que chez nous, on peut se poser la question. Mais chez les jeunes de cet âge-là, où est l'authenticité dans les relations ? Ben figurez-vous que j'ai découvert que ce problème de filtre ne date pas d'hier quand même. Les filtres qu'on met sur les photos. les filtres que l'on met sur nos vies, les filtres qu'on met sur ce que l'on veut bien montrer à l'autre de soi. Ben, figurez-vous que quelqu'un d'autre en a fait l'expérience avant nous. Prenons Exode 34, s'il vous plaît. Donc finalement, il n'y a pas que les ados qui sont concernés par les filtres. Exode 34. Aaron et tous les enfants d'Israël, au verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Ah oui, donc je vous explique le contexte. Donc, les Hébreux, les Israélites sont dans le désert. Moïse monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. D'accord ? Et donc, cet épisode-là se passe lorsque Moïse redescend. Donc, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse descendre donc du mont Sinaï, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de parler, il mit un filtre sur son selfie. Ah non. Il mit un voile sur son visage. Comprenez ce que je veux dire ? Il mit un voile sur son visage. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne où il venait de passer 40 jours en présence de Dieu, où il venait de recevoir les tables de la loi, qu'est-ce qui s'est passé quand il est redescendu ? Bah, son visage brillait tellement. La gloire de Dieu était sur son visage. La Bible dit que Moïse a même mis un voile sur son visage. Donc pourquoi a-t-il mis ce voile sur son visage ? Pour protéger les Israélites de la lumière qui était trop aveuglante ? Vous croyez que c'est ça ? Non, c'est pas ça. On pourrait croire ça. La gloire devait être tellement forte que les Israélites, on le voit d'ailleurs plus haut dans le verset, ils ont eu peur de le regarder. Mais non, c'est pas pour ça. Paul nous l'explique plus loin, dans 2 Corinthiens 3, verset 13. Pourquoi a-t-il mis un voile après avoir parlé aux Israélites ? S'il voulait préserver les Israélites de la gloire qui les éblouissait, la gloire de Dieu, il aurait mis son voile sur son visage avant de leur parler. Mais là, on voit qu'il l'a mis après. Donc au verset 13, on peut voir, Paul nous explique pourquoi il a mis ce voile. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un filtre sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. En réalité, Moïse faisait comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a été en présence de la gloire de Dieu qui a illuminé son visage, qui a rendu son visage brillant quand il est redescendu. Et il s'est adressé aux Israélites avec cette gloire qui brillait. Et quand il a eu fini de parler, la Bible nous dit qu'il a placé un voile sur son visage. Pourquoi ? Parce que la gloire était en train de passer. En fait, ce que Moïse cherchait à dissimuler aux Israélites, il ne cherchait pas à les protéger de la gloire. Il cherchait à dissimuler aux yeux du peuple que la gloire était en train de passer. La gloire qui était sur lui n'était que passagère. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait, Moïse, en plaçant ce voile ? Ben, il cherchait tout simplement à dissimuler la vérité sur lui-même. La vérité de quoi ? Ben, la vérité sur le fait que non, il n'était pas parfait, il n'était pas aussi glorieux que Dieu. La gloire qui avait illuminé son visage n'était que passagère, elle ne venait pas de lui, elle ne venait que de Dieu qui était passé devant lui. Mais si on retirait Moïse de la présence de Dieu, la gloire disparaissait. Et c'est ça que Moïse ne voulait pas que les Israélites voient, que la gloire passait. La gloire de Dieu, mes amis, on ne l'obtient que dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Moïse cherchait à dissimuler. Il cherchait à dissimuler le fait qu'il n'était pas parfait. Il cherchait à se faire passer pour parfait auprès des Israélites, alors qu'en réalité, il ne l'était pas. Vous êtes toujours là ? Sous l'ancienne alliance, donc à l'époque de Moïse, sous l'ancienne alliance, le voile était nécessaire. Il était nécessaire si on voulait dissimuler. Moïse a eu besoin de ce voile pour dissimuler la vérité sur lui-même. D'accord ? La bonne nouvelle, c'est que, et c'est ce que Paul explique plus loin, c'est que dans le Nouveau Testament, ce voile, il n'y est plus. Ce voile, il a été déchiré par Jésus lui-même. Aujourd'hui, cette gloire-là, on la porte en nous. On n'a plus besoin de se placer, de laisser Dieu passer devant nous et de profiter, de recevoir cette gloire. Et ensuite de placer un voile pour cacher le fait qu'elle s'en va. Non, cette gloire, on la porte à l'intérieur. Donc on n'a plus besoin de porter ce voile. Donc il est inutile de mettre des filtres. Inutile de cacher la vérité aux gens. Pourquoi ça serait nécessaire alors que le voile n'a plus aucune raison d'exister? Pardon. Le voile a été déchiré par Jésus lui-même. Par contre, tous ceux qui vivent sous l'ancienne alliance portent toujours ce voile. Les juifs, par exemple, portent toujours ce voile. La vérité leur est cachée par le voile. Les incroyants sont aveuglés par le voile. Ils ne peuvent pas voir la vérité. Ils ont un voile devant les yeux. Heureusement, au verset 16 de 2 Corinthiens 3, on voit qu'on a quand même une solution pour les incroyants. Lorsque leur cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Lorsqu'on se tourne vers Jésus, le voile est déchiré. Par qui ? Par Jésus lui-même. On n'a même plus besoin de faire l'effort de l'enlever, ce voile. C'est Jésus qui l'enlève, au moment où on se tourne vers lui. Au verset 17, « Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est la vérité. » Quand on retire le voile, il ne reste plus que la vérité. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. On voit que celui qui se tourne vers Dieu, donc, voit le voile disparaître. Il voit enfin qui est Jésus. Enfin libre, il peut regarder en face la gloire de Dieu et cette gloire-là ne disparaîtra pas. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin du voile. Le problème avec nous croyants, c'est qu'à force de prendre l'habitude de mettre des filtres, un voile, des filtres surtout, petit à petit, on perd la liberté que nous avons gagnée au salut. La vérité nous rendra libres. Or, en mettant des filtres et des filtres et des filtres, on perd de cette liberté. Les filtres couvrent le fait que la gloire qui illumine notre visage est en train de passer. Ben oui, la gloire, on ne l'obtient que si on passe du temps avec Dieu. Si on ne passe pas de temps avec Dieu, la gloire passe. Qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance? Souvent, quand on naît de nouveau, dans les semaines qui suivent, les gens vous disent « Oh non, ton visage a changé, tu es différent. » Vous avez remarqué ça? Eh ouais, le voile a été retiré. Par nature, malheureusement, l'être humain a tendance à poser des voiles à la première difficulté. Souvent, plutôt que de confesser nos péchés ou de les déposer au pied de la croix, on a tendance à vouloir les dissimuler. Alors on place des filtres, on place des voiles. On place des filtres sur nos faiblesses, on place des filtres sur nos batailles. Au lieu de tout simplement tout confesser, la liberté, nous perdons cette liberté. Plus on superpose de couches de voiles et moins on gagne en liberté. Au contraire, on la perd. Adam et Ève avaient fait la même chose. Vous rappelez du message du pasteur Elisabeth? Adam et Ève, quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, plutôt que tout de suite aller voir Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben non. Alors ils se sont cachés avec des feuilles de figuier et puis ensuite ils ont été se dissimuler dans le jardin. Pourquoi? Ben ils ont placé un voile sur un péché. Et c'est ce qu'on fait. À chaque difficulté, si on ne confesse pas nos péchés tout de suite, si on ne les place pas aux pieds de Jésus, on rajoute un voile. On ne s'en rend même pas compte, mais on rajoute encore un voile. Donc aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce que nous portons des voiles? Dans quel domaine est-ce que je mets un filtre dans ma vie? Quelle est la partie de ma vie que je cherche à dissimuler? Quelle est la fausse image que j'essaie de donner de moi? Quand je fais des selfies, qu'est-ce que je renvoie comme image? Posons-nous la question. Par exemple, il y a des selfies, des selfies de mamans qui font des bons gâteaux pour les goûters des enfants. Jolie selfie des gâteaux pour le goûter. Alors que 5 minutes avant de faire cuire les gâteaux, la maman, elle a hurlé sur les enfants parce que la chambre n'était pas rangée. Ou alors, jolie selfie au parc avec les enfants. Comme je suis une bonne maman, j'emmène mes enfants au parc et je joue avec eux et c'est super et la vie est belle et je vis au pays des bisounours. Alors qu'en fait, la maman, elle est à garde parce qu'elle n'en peut plus, quoi. Elle bosse, elle s'occupe des enfants, elle fait les courses. Elle est complètement débordée, mais petit selfie, elle trompe la galerie. Ou le papa qui va prendre une photo pendant qu'il est en train de jouer au foot avec ses gamins. Le super papa s'occupe de ses enfants, il les sort, il joue au foot, c'est super, la vie est belle, youhou, youhou. Alors qu'en fait, le papa, bah, il est complètement dépressif, il n'est jamais là, il bosse trop, il est crevé, il n'a pas le temps de s'occuper de ses gosses. Mais alors, la fois dans l'année où il les emmène au parc jouer au foot, paf, petit selfie qui va bien. Là encore, on trompe la galerie. Ouais. Et il y en a beaucoup des photos comme ça. Beaucoup, beaucoup trop en tout cas. Qu'est-ce qu'on cherche à dissimuler ? Ou les gens qui prennent des photos aussi, qui publient des jolies photos hein, de paysages ou de personnes, n'importe quoi, et puis qui se sentent obligés de mettre des versets bibliques dessous. Ça aussi, c'est pareil. Mais ça rime à quoi ? Est-ce que c'est vraiment authentique tout ça ? Est-ce que ta vie est suffisamment en règle pour que sur ta photo de profil ou sur ton fil d'actualité, tu mettes un verset biblique ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est nécessaire ? En parallèle, c'est toujours cette mauvaise attitude que tu n'as pas réglée ? Cette personne à qui tu n'as pas demandé pardon ? Est-ce que tout est en règle dans ta vie pour que tu puisses afficher comme ça, au vu et au su de tous, que ben, tu vis dans une vie parfaite, que tout est facile, que tu n'as pas de bataille, que c'est trompeur tout ça. C'est trompeur. Quelle est la dernière fois qu'on s'est vraiment confié à quelqu'un ? Quelle est la dernière fois où on a vraiment déversé son cœur à un être humain ? Pas à Facebook ou Instagram. Les relations. Remettons les relations à leur place. Alors, publier des choses sur Facebook, pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que ça a un sens ? Ça n'a aucun sens en réalité. Sauf celui de peut-être récolter des j'aime. C'est ce que les j'aime, les likes, voilà. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est vraiment utile tous ces j'aime, tous ces likes ? Fait par qui ? Par des amis ? Mais est-ce que vous vous rappelez du sens profond du mot ami ? Ami, c'est quelqu'un avec qui on est physiquement. C'est quelqu'un avec qui on déambule, avec qui on partage, avec qui on parle, avec qui on se touche, on se voit, on échange. C'est pas un ami qui aime les photos que tu publies quand tu es au parc avec tes enfants. C'est pas un ami, ça. Ou alors, allez toquer chez lui un jour que vous avez un problème. Puis vous allez voir si c'est un ami. Donc c'est ça le problème. C'est qu'on a galvaudé le sens du mot ami, mais on a aussi galvaudé le sens du mot j'aime. J'aime une photo. Non, t'aimes pas une photo. Tu aimes Dieu, t'aimes ton mari, t'aimes tes enfants, tu aimes tes amis, mais t'aimes pas des photos. Ou alors, vous n'avez pas compris ce que ça veut dire aimer. Ou alors là, il va falloir reprendre à la Bible depuis le début et voir ce que Dieu dit à propos de l'amour. Comment doit-on aimer son prochain ? Mais c'est pas aimer une photo, ça ne rime à rien. Ça n'est pas vivant, il n'y a aucun échange, ça ne vous apportera rien, rien du tout. Sauf peut-être la satisfaction immédiate de dire « Oh bah tiens, j'ai mis une jolie photo, là, je vais voir qui c'est qui l'aime. » Et tac ! 3 minutes après, il y a 14 j'aime. Et là, on regarde qui c'est qui les a aimés. Puis alors là, si vous avez la meilleure copine qui n'a pas mis j'aime, ah ben voilà, elle ne met jamais j'aime, elle n'aime pas mes photos, elle n'aime pas ce que je fais, voilà. Et ben voilà, je ne mettrai plus de j'aime dans ces trucs, je ne mettrai plus de like, voire même je vais la bannir de ma liste d'amis sur Facebook. Ça rime à rien. Ça rime à rien. Cette espèce d'attente dans une approbation, voilà. On cherche une approbation immédiate. Voilà, moi je voudrais que toute l'église aime mes photos. Mais c'est pas ça, en fait, ce que je veux. Je n'ai pas besoin que tout le monde aime ma photo. Par contre, ce que je veux, c'est que tout le monde m'aime moi. Parce que c'est ça qu'on cherche. Les gens sont à la recherche d'amour, du vrai amour, d'une vraie communion avec les gens. Alors, tous ces likes qu'on met sur les photos des gens, bah, ça rassure un petit peu. Bah, tiens, lui, il aime bien mes photos. Bah, tiens, elle aime bien mes photos. Bah, tiens, ma copine, je peux toujours compter sur elle. Elle aime bien mes photos. Mais ça ne remplit pas le vide qui habite tous les êtres humains. On est tous en attente d'être aimés et d'aimer quelqu'un en retour. Et toutes les photos du monde, tous les likes et tous les j'aime du monde ne pourront jamais combler ce vide-là. On est d'accord ? On est, petit jeu de mots, on est en attente, en recherche de self-esteem. Oh, elle était bonne. Non, mais je l'ai trouvée bonne quand je l'ai faite. Self-esteem. Bon, selfie. Self-esteem. Self-esteem. Non, c'est bon. C'est tombé. Laissez tomber. Merci. Bon, quel est le problème? Nous mettons trop de filtres sur les choses, trop de filtres sur nos vies, parce que nous cherchons trop souvent à montrer notre meilleur profil. Et en faisant ça, ben, parfois ça peut marcher quand même. Hein. Parfois, il y a des gens qui sont impressionnés par nous. Il y en a qui sont impressionnés, ouais. Ils sont impressionnés. Ils ne sont pas connectés du tout avec vous, mais ils sont impressionnés. Donc ça aussi, ça flatte. D'accord ? On impressionne nos gens avec nos forces. On peut impressionner des gens en montrant des photos super flatteuses de nous, de notre famille. On fait tout bien et tout va bien et jamais de faute. La maison toujours bien rangée, les gamins super bien élevés, bien habillés, machin. Tout est parfait. Donc ça, ça peut en impressionner certains. Mais qu'en est-il de nos faiblesses ? Comment est-ce qu'on connecte avec les gens ? On ne connecte pas avec les gens avec tout ce qui va bien dans nos vies. Quand vous êtes vraiment connecté, quelle est la meilleure façon d'échanger sincèrement avec quelqu'un ? Ben, ce n'est pas en lui expliquant que votre vie elle est bien plus parfaite que la vôtre. Là où vous échangez, vous connectez vraiment avec quelqu'un, c'est ben, en lui parlant de vos faiblesses. Quand on voit les faiblesses chez quelqu'un, ben, tout de suite on est attentif, on se dit ben, « tiens, elle a une faiblesse, elle a peut-être besoin de quelque chose, on a peut-être l'occasion de l'aider, de lui apporter de l'aide d'une manière ou d'une autre. » On connecte avec les gens via nos faiblesses. On impressionne les gens avec nos points forts, mais on connecte avec nos faiblesses. Donc n'hésitons pas à retirer les voiles et à se montrer tel que nous sommes. Je ne veux pas dire qu'il faut montrer toutes nos faiblesses tout le temps et puis passer notre temps à se plaindre. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on dissimule nos faiblesses alors qu'en réalité, c'est notre moyen de communication, c'est notre moyen de connexion avec les gens. D'accord ? Moi, si tout le monde me fait croire qu'il va bien, qu'il n'a pas de problème, qu'il n'a pas de faiblesse dans la vie, ben je vais pas particulièrement me préoccuper de cette personne-là. Je vais plutôt chercher quelqu'un qui va un peu moins bien pour prendre un café, pour échanger. Voilà, Evelyne, par exemple, qui s'occupe des soins pastoraux, elle va se préoccuper de quelqu'un dont elle va déceler les faiblesses. Quelqu'un qui va bien ne va pas retenir son attention. D'accord ? Et puis quand vous voulez connecter avec les gens, encore une fois, on connecte avec les gens par nos faiblesses. Je ne sais pas si j'ai été claire sur ce point-là, mais c'est très important. Ne cherchons pas à impressionner les gens en leur faisant croire qu'on est super et que tout va bien dans nos vies. On ne connecte pas avec les gens en leur faisant croire ça. On les impressionne, mais c'est superficiel. Par contre, en se montrant tel que nous sommes, eh bien là, oui. Là, on peut avoir des relations authentiques. Ceci étant dit, que faire ? Vous dire de cesser de porter un voile, ben, je vous l'ai dit. D'accord ? C'est la meilleure chose à faire. Cesser de filtrer votre vie, ça semble évident. Ne plus avoir peur de savoir ce que les gens pensent de vous, ben, c'est évident aussi. Je veux dire, en Christ, on a gagné une liberté que rien ne peut altérer. Ne laissons pas les peurs, la peur de savoir ce que l'autre pense de moi, nous gâcher tout ça. Non. Et de nouveau, rentrer dans notre coquille et refaire le processus inverse. N'ayons pas peur de tout ça. Mais ce qui est bien plus efficace, c'est quand même de voir ce que Dieu pense de tout ça. Mes amis, n'oublions pas une seule chose. Il n'y a que Jésus qui peut retirer le voile. Donc, quel que soit le voile que vous avez placé, volontairement ou involontairement, dans vos vies, il n'y a que devant Jésus que vous pourrez le retirer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que lui qui peut le retirer. Il n'y a qu'en vous tournant vers lui et en lui parlant de ce qui ne va pas, en lui parlant de ce que vous cherchez à dissimuler, que le voile sera retiré. Il n'y a qu'à cet endroit-là. C'est la seule et unique façon de retirer ce voile. 2 Corinthiens 3, 16 nous reparle de ça. Mais au verset 18 surtout, verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. » nous tous, parce que si le selfie a à voir avec moi, la gloire de Dieu a à voir avec nous, nous tous. Le salut, c'était pour nous tous. La communion, c'est pour nous tous. La Bible dit, là où un ou deux sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux, Jésus. Jésus est parmi nous quand nous sommes là, présents. Il y a quelque chose avec la présence, nous tous, communion ensemble, nous tous. Jésus était présent, il est venu sur terre, Dieu s'est pas mis en haut des cieux en disant « Humain, je vous aime !» Non, il nous a pas dit qu'il nous aimait. Il a envoyé son fils, il a fait de son fils une chair qu'il a envoyée sur la terre pour qu'il soit au milieu de nous. La présence, l'amour ne peut pas être dit. L'amour doit être démontré. C'est pour ça que Jésus est venu, pour nous démontrer. Toutes les actions que Jésus a fait, il les a fait présents. Présent. Il était là, il a touché les malades, il a expliqué, sa présence était importante. La puissance vient par la présence. On ne peut pas échanger de manière authentique via les réseaux sociaux. Il faut un face-à-face. Le face-à-face ne remplacera jamais le pouce-à-pouce. C'est pas possible. Il faut du face-à-face, il faut qu'on soit ensemble. Jésus, pour démontrer ce qu'il était, pour montrer aux humains qui était Dieu, pour comprendre le salut, a fallu qu'il vienne, qu'il soit là, qu'il marche sur la terre et qu'il soit au milieu de nous. Au milieu de nous, la présence est irremplaçable. Nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés par sa gloire. C'est-à-dire que là où Moïse était transformé provisoirement par la gloire de Dieu sur le mont Sinaï, parce que dès qu'il redescendait, la gloire commençait à disparaître, et bien nous sommes transformés en permanence par cette gloire qui ne disparaît pas. Chaque fois que nous nous tournons vers Dieu, la gloire est là. Et cette gloire, tout comme elle faisait briller le visage de Moïse, elle transformait Moïse. Il était différent, il irradiait la gloire. Et bien nous, c'est ce qui se passe quand on est en présence de Dieu. Sans le voile, sans tous ces voiles, sans tous ces filtres, et bien quand on se trouve face à face avec Dieu, on est transformé à son image par une gloire qui ne passe pas. Elle ne passera plus, cette gloire. Ça va ? Encore un petit peu. Jean 13 nous dit, ben c'est ce que je viens de vous dire, Jean 13, Dieu est au milieu de ses disciples, versets 34 à 35. Ils viennent de terminer de prendre leur dernier repas ensemble. Et à ce moment-là, Jésus leur donne un nouveau commandement. Il leur dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on reconnaîtra si vous êtes des disciples de Dieu. Mais aimez-vous comment ? Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et comment Jésus a-t-il aimé ses disciples ? En étant présent au milieu d'eux. En partageant leur repas, en partageant leur quotidien, en écoutant leurs peines, en acceptant toute leur faiblesse et leur ignorance de la parole. Il les a enseignés, il les a élevés, il les a amenés à un autre niveau, il leur a expliqué les choses, il était au quotidien avec eux. Et juste avant ce repas-là, il était tellement au quotidien, tellement à leur service, tellement il était là pour leur montrer son amour. Juste avant ce repas, il y a un épisode où il leur lave les pieds. C'est pas un beau geste d'amour, ça ? Le Fils de Dieu qui vous lave les pieds. Mais il pouvait pas leur laver les pieds via Insta. C'était pas possible. Ou Facebook, c'était pas possible. Il fallait qu'il soit présent. Donc quand dans ce nouveau commandement, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ben c'est simple, aimez-vous les uns les autres, tout le monde peut le comprendre, mais comme je vous ai aimé, c'est-à-dire comme Jésus nous a aimé, c'est-à-dire physiquement, concrètement, en étant présent l'un pour l'autre. D'accord ? Et pour être présent, ben, être présent, ça veut dire communiquer, ça permet une communication, ça permet, une communion au quotidien. Mieux que Jésus, il n'y a pas d'illustration, hein, c'est pas possible. Il était au quotidien avec ses disciples. Et c'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes des disciples de Jésus. C'est pas à tous les j'aime et les likes qu'on pourra mettre sur Facebook ou sur Instagram. Ça compte pas. Ça compte pas. Quand on met des j'aime, ça ne devrait pas s'appeler j'aime d'ailleurs. Ça ne devrait pas s'appeler comme ça. On a une définition de ce qu'est l'amour. L'amour, il requiert une présence physique. Dans Hébreux 10, versets 24 à 25, il dit « Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et faire le bien. Prendre soin de l'autre. » Comment on fait à prendre soin de l'autre à distance ? C'est pas possible. On peut pas prendre soin de quelqu'un par texto, c'est pas possible. Ça peut arriver, on peut prendre des nouvelles de quelqu'un ponctuellement, mais prendre soin de quelqu'un, prendre, c'est un verbe qui est physique, prendre. On prend quelque chose, on est obligé de tenir, d'attraper quelque chose, prendre quelqu'un, prendre soin. Ça requiert une présence physique. Ça requiert de se tourner complètement vers l'autre, prendre soin de l'autre. Paul nous encourage à passer du temps ensemble, à avoir une vraie communion. Tout comme ce que faisait Jésus. La présence physique est importante. D'ailleurs, rien que le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Pas Dieu est au ciel, Dieu avec nous. Rien que son nom illustre ça. Soyons présents. Soyons présents d'autant qu'on attaque une période de fête. Et c'est une, comme toutes les périodes de fête, ce sont des périodes qui peuvent être compliquées pour des gens qui sont un peu seuls ou qui ont une famille loin ou... Soyons présents. N'envoyez pas des petits SMS en disant oh, « je pense à toi aujourd'hui ». Ça nous fait une belle jambe. Prenez le téléphone. Prenez le téléphone. Dire, bah, tiens, je pense à toi aujourd'hui, le Seigneur t'a mis sur mon cœur. Est-ce que tu veux qu'on prie? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce qu'on peut prendre un café? Soyons présents. Allons au-delà des j'aime, des likes et des selfies et de toutes ces choses. Genre, ponctuellement, un SMS, ça peut faire l'affaire. Mais ça n'est pas biblique. On ne peut pas, par SMS, prendre soin. On ne peut pas s'aimer au sens où Jésus l'entend par SMS. Ça n'est pas possible. Alors, je voudrais vous encourager à être présent, de plus en plus présent, et à pendant cette période de fête tout particulièrement. Et puis, à remettre les choses à leur niveau. Encore une fois, moi, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Je suis assez active sur les réseaux sociaux. Mais par contre, je ne veux pas que ça altère l'authenticité de mes relations. Et d'ailleurs, mes amis sur Facebook, je n'ai pas 300 amis, moi, sur Facebook. C'est assez sélectionné. Et d'ailleurs, il y a même des gens dans l'église que je n'ai pas acceptés dans mon cercle d'amis Facebook. Non pas que je ne vous aime pas, hein, mais parce que je fais attention. Je fais attention, d'abord, à ce que je partage. Et puis, je fais attention. Je veux rester authentique dans ce que je fais. Alors, rester authentique avec Facebook, ça peut paraître très paradoxal, mais j'essaye. Donc rappelons-nous que les relations, ben, elles doivent rester authentiques. Donc Dieu au pays des selfies, ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Dieu c'est Dieu et il doit garder la place qu'il a. Les selfies, Facebook, c'est autre chose. Mais on ne peut pas tout mélanger. Ok ? Voilà. Merci.